C'est Christian qui va nous conduire dans la paracha aujourd'hui, quitter ça. Je ne sais pas combien d'années il faudra encore pour que tout le monde ait vraiment lu la paracha de la semaine avant le jour même, afin de savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc c'est Christian. Nous t'attendons.
Shabbat shalom à tous. Aujourd'hui, c'est la paracha Kitissa. On est aussi dans le temps de Purim Katan. C'est le petit Purim. On est dans le mois d'Adar. Donc, pour ceux qui savent. Donc c'est le mois d'Esther, quelque part, dans l'histoire d'Esther. Donc, qui dit ça ? Signification littérale, quand tu lèveras. Le verset entier énonce, quand tu lèveras la tête des Israélites. Bien sûr, on est dans la première ordonnance pour cette paracha du dénombrement. Bien que la signification de ces mots soit « quand tu feras le recensement des Israélites », le sens littéral de la paracha implique que tout le contenu de la paracha est un processus par lequel le peuple d'Israël, le peuple hébreu, va s'élever à des hauteurs, des sommets encore plus hauts. On va voir comment éventuellement les choses se sont passées, se sont déroulées. Donc, nous voyons bien, on va dire, un certain nombre de choses. Et on voit la paracha commencer par un nombre de détails relatifs au service sacerdotal du Mishkan. On a par exemple en premier le don d'un demi-shekel utilisé pour le service financer le service du Mishkan, suite à ce dénombrement en fait, des enfants d'Israël de plus de 20 ans, de 20 ans et plus. On voit la cuve d'airain, en fait, qui, dernier des ustensiles du tabernacle, du Mishkan. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est une ordonnance. On a ensuite les ingrédients, l'huile particulière destinée à oindre les ustensiles et les kohanim. Donc c'est une huile qui est composée de plusieurs ingrédients. On a aussi l'encens, les ingrédients de l'encens. Alors il y a une particularité pour l'encens, elle est faite de 11 ingrédients. Alors c'est assez intéressant à souligner. On a 10 ingrédients qui ont une bonne odeur et un ingrédient qui a une mauvaise odeur. Donc ça c'est assez intéressant. Alors, les sages rapprochent ça du minyan. À partir du moment où on est 10, on peut accepter quelqu'un dans l'assemblée qui n'est pas, on va dire, saint ou qui n'a pas été sanctifié. Et pourtant, il devient aussi, en fait, il peut faire partie de l'assemblée. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ensuite, on a la désignation des maîtres artisans qui vont fabriquer le Mishkan et ses ustensiles. Et ces objets. Tout de suite après cette désignation, on a aussi le commandement de ne pas violer le Shabbat. Et en plus, c'est au moment de la construction du Mishkan. Donc même quand on construit quelque chose pour l'Éternel, le Shabbat est important, hein, puisqu'il y a un arrêt de mort. Voilà. Alors... concernant le dénombrement, il y a un terme qui est intéressant, c'est le rachat pour l'Éternel, pour le paiement au Seigneur d'un demi-shekel. Le rachat, c'est quelque chose qui apparaît plusieurs fois déjà, mais qui est important et qui montre que l'Éternel rachète, est capable de racheter son peuple, racheter ses enfants. Alors le demi-shekel, je trouve ça aussi intéressant parce que on a finalement, c'est pas une unité, hein, une moitié, c'est pas une unité. Donc, on a besoin des autres pour pouvoir faire l'unité, faire l'union. Que l'on soit riche ou pauvre, on représente une moitié. Une moitié. Alors, ça fait partie des choses qui sont intéressantes parce que finalement, pour réaliser finalement les choses que Dieu nous a données, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, notamment, eh bien, si on n'a pas de prochain, on est tout seul, hein, donc on ne peut pas réaliser ces choses-là. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc concernant le bassin, la cuve, alors elle est faite en cuivre. Alors, tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. L'autel et le bassin sont deux objets sacrés qui occupent le parvis du sanctuaire. Quand on rentre, ce sont eux que l'on rencontre en premier. En premier lieu, en y pénétrant, venant de l'extérieur. Et ils illustrent les deux conditions préalables à toute ascension vers Dieu. Alors, on a l'autel pour le sacrifice. Alors, le sacrifice, ce n'est pas le terme, même si c'est une traduction, ce n'est pas le terme exact en hébreu, c'est korban. Et qui vient de la racine karov, s'approcher de Dieu. Alors, je suis un petit. Alors. La différence entre l'acte. Alors, on voit que la cuve sert à se laver les mains et les pieds. Et à un autre endroit, on devait s'immerger. Donc, la différence entre l'acte d'immersion prévu antérieurement par l'investiture des Kohanim, de même que pour une série d'autres occasions. Ensuite, l'acte d'ablution des mains et des pieds, donc se laver les mains, c'est l'acte d'ablution des mains et des pieds, mérite cependant d'être relevé. L'immersion produit un effet de purification, donc c'est la purification, l'immersion. Donc les ablutions, l'ablution par contre, un effet de sanctification. L'immersion comporte l'élément négatif du lavage tout au point de vue physique que moral, tandis que l'ablution implique l'élévation d'un objet profane ou impur au degré de sainteté, soit par la refonte, soit par la consécration à son usage sacré. Et donc, ça c'est une petite note par rapport au matériau, hein, le cuivre. On peut noter que le bassin est fait de cuivre, et le cuivre, c'est Nérochette en hébreu. Si l'on prend les trois premières lettres, cela donne Nahash, le serpent. Donc c'est bon, c'est aussi intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que la faute de départ, le serpent y est pour quelque chose. Voilà. Donc c'est intéressant. Ensuite, l'ordonnance des deux objets sacrés dans le parvis du sanctuaire, l'autel et le bassin, peut être mise en rapport avec leur signification. Le premier objet est l'autel, dont la destination est l'acte négatif de l'absolution et l'expiation. Et un peu plus loin, en retrait, sur l'autel, hein, vers le côté sud, se situe le bassin. Donc déjà, on a quelque chose de géographique, hein. Il représente la seconde étape, la consécration de nos organes, porté au degré de pureté et de propreté pour le service de Dieu. Voilà. Donc on commence par, on va dire, avoir finalement l'expiation de nos fautes. Seulement après, on peut s'élever. Notre corps, tout notre corps, et spirituellement, on peut s'élever. Alors c'est intéressant parce que c'est une découverte pour moi, puisque, bon, même si ça fait un moment que je suis là, il y a des choses que je ne comprends pas. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas d'ailleurs. Puis, je crois que même jusqu'à la fin, ça sera comme ça. Mais les ablutions, quelque part, ça commence à. Pour moi, ça commence à prendre sens. C'est quelque chose que je comprends mieux. Voilà. Même si j'ai vu que même Moshe dit qu'il ne comprend pas tout, mais il fait. Donc, ça me rassure un peu. Ça me rassure un peu. Voilà. Donc, On a le rappel aussi de ne pas violer le Shabbat, hein, donc dans la suite des choses. Et ensuite, à la suite de cela, on reprend le récit du don de la Torah. Faisant suite à la paracha Mishpati. Donc on voit qu'il y a une interruption pendant ce temps-là. Et donc là, on reprend le don de la Torah. Et on peut lire tout de suite après une brève description des premières tables de la loi écrites par Dieu, par le doigt de Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui les a faites et écrites. Puis on est plongé dans l'épisode dramatique et insensé du veau d'or et de ses conséquences tragiques. Donc là, on rentre dans quelque chose où finalement, pendant que Moshe était sur la montagne, s'entretenant avec Dieu, le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, demandé un certain nombre de choses à Aaron. Alors l'Éternel dit à Moshe, « Va, descends, car on a perverti ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte. » Alors ça, là, on a un certain nombre de choses où finalement, l'Éternel, finalement, sa colère s'enflamme. Et on voit un certain nombre de choses. Alors, je vois que le temps passe. Alors, Moshe implore l'Éternel. Il intercède en évoquant notamment aussi le mérite des pères. Et l'Éternel révoque le malheur qu'il avait voulu infliger au peuple. On voit que le rôle de Moshe n'est pas neutre, il est vraiment important. Moshe a vraiment un rôle important. Et il a décidé de vraiment... il aime son peuple et il a vraiment quelque chose qui fait que... Eh bien, il parle à Dieu. Il parle à Dieu pour son peuple. Lorsqu'il descend de la montagne, il entend le peuple. Il entend vraiment cette clameur. Il est attristé et son courroux s'allume. Voilà. Et c'est là où, finalement, il jette les tables de la loi qui se brisent au pied de la montagne. Il a pris, en fait, l'idole, le veau, il l'a fait passer par le feu et ensuite il l'a réduit en cendres. Ensuite, il a mis dans l'eau, il a fait boire à tout le peuple l'eau mélangée avec ces cendres-là. Alors, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être dites là-dessus. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir développer. C'est vrai que c'est compliqué aussi, même pour moi, donc je préfère pas rentrer dans des choses qui sont que je pourrais mal traduire. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça que je fonctionne et je ne veux pas vraiment faire de bêtises. Voilà. Donc... Et Moshe, finalement, on voit, interroge finalement Aaron, et puis il voit finalement que le peuple s'est livré au désordre. Voilà. Et donc il va se poster à la porte du camp et il dit « Ceux qui aiment l'Éternel me suivent ». Voilà. Donc ça, c'est un peu quelque part. Moshe agit. On voit que Moshe agit, intercède, mais aussi dans le peuple, il agit contre les fauteurs de troubles. Mais il n'agit pas physiquement. Il demande volontairement aux gens de prendre position. Et ça a des conséquences. Ça aura des conséquences. Voilà. Donc, après ces épisodes terribles, on a la descente finale de Moshe du mont Sinaï avec les secondes tables. Et finalement, c'est lui qui a dû les fabriquer. Dieu lui a demandé de les fabriquer. Et de monter avec ces tables pour qui et c'est Moshe qui les a gravés. Voilà. Alors c'est une paracha qui est quand même très difficile pour moi aussi. Une des questions qu'on pourrait finalement se poser, la plus difficile peut-être, comment le peuple hébreu, après avoir été témoin de la puissance de l'Éternel déployée notamment lors des 10 plaies, lors du passage de la mer de Jon, alors c'est la mer rouge, traduite en mer de rouge, mais c'est la mer de Jon. Et après avoir reçu la Torah au mont Sinaï, simplement 40 jours plus tôt, comment a pu-t-il commettre la faute du veau d'or? Donc ça, c'est une question, une vraie question. Et ça, ça peut nous interroger encore aujourd'hui pour nous-mêmes. Puisque c'est intéressant de voir que les liens avec Dieu, tant que les choses se passent bien, c'est un peu comme un enfant. Moi, je remettrais ça un peu comme ça. L'enfant, il nous aime, mais quelque part, tant qu'il n'y a pas d'accroc, l'amour n'est pas mis à rude épreuve et on ne peut pas savoir si véritablement on est vraiment attaché à l'Éternel. Quand le peuple a commis cette faute, que Moshe a obtenu finalement quelque part de l'Éternel, il a négocié et l'Éternel n'a pas appliqué ce qu'il avait résolu de faire, c'est là où finalement tous ceux qui étaient un petit peu comme ça, qui marchaient avec l'Éternel, se sont rendus compte de l'importance de ce lien et ça renforce les liens. Quand on a un problème avec quelqu'un et qu'on l'aime, si jamais on revient à lui, si on fait teshuva avec Dieu, eh bien le lien sera plus fort et c'est là où on ne reviendra plus en arrière. C'est dans la force de l'épreuve qu'on devient plus fort. Et c'est important à noter parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de cela? Puisque finalement, c'est une histoire qui s'est passée il y a des siècles, mais elle nous concerne encore aujourd'hui. Comment marche-t-on avec Dieu? C'est cette question-là aussi qui était posée. Voilà. Donc, avec cette question, j'en ai terminé et je souhaite un Shabbat Shalom.
Darbin, on va louer l'Éternel. Et peut-être bon de rappeler au préalable que c'est dans le cadre de cette paracha que c'est établi et que Dieu a établi la fête de Yom Kippour afin qu'il n'y ait plus aucune faute qui puisse demeurer impardonnable. Vani batuach. C'est ton amour, Seigneur, qui est plus fort que la mort. Elle est plus forte que notre haine. La faiblesse d'aujourd'hui, c'est que l'amour s'affaiblit, s'est refroidi, et il rend faible. Et dans ce temps, Seigneur, nous te demandons qu'une prise de conscience intérieure puisse s'établir afin que nous ayons non pas un sentiment, mais l'amour de ton nom gravé dans nos cœurs. Et qu'il fait que ni la mort ni la vie ne peut nous séparer de toi, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les largeurs ne pourront nous séparer de toi.
Lo yochlo le'rafideni me'a
Sois béni. Tu nous as donné des lèvres non pour maudire, non pour être dans le lachonara, la médisance, non pour dénigrer l'autre, mais pour l'embellir, pour lui donner la couronne de splendeur qui vient de ton trône. Tu nous as donné des lèvres pour bénir, pour parler, dans la sainteté de ton nom. Seigneur, combien nous pouvons nous écrier encore aujourd'hui comme Isaïe le prophète, lorsqu'il a eu devant ses yeux ton trône de gloire. La première des choses qu'il a réalisées, c'est l'impureté de ses lèvres, son indignité. Et tu l'as purifié. Seigneur, que aujourd'hui nous ne soyons pas simplement des squelettes religieux, des hommes et des femmes qui n'ont qu'une connaissance doctrinale de ton nom, éloignés d'une expérience de vie profonde avec toi, dans une réalité concrète de marche, où on n'applique pas ce que l'on sait. Seigneur, que nos lèvres aujourd'hui, lorsqu'elles prononcent ton nom, qu'elles soient pures, qu'elles soient propres à dire le nom de Yeshua, Mashiach. Car celui qui prononce ton nom, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Onatanli.
Nathalie et Fabien, et Chomer et Sidana.
Hachem Adonai. C'est pourquoi nous voulons, avec des lèvres purifiées, non par le sang des animaux, ni même par les paroles que nous prononçons, mais par l'œuvre de Yeshua. Et nous pouvons dire, Seigneur Maranatha, viens. Viens établir ton trône, viens établir ton règne. Que tes pieds se posent sur le mont des Oliviers. Afin que ton règne soit établi sur la terre comme au ciel. Pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas être simplement vivre ces temps uniquement comme une idéologie, une réalité virtuelle, mais dans une réelle attente dans notre cœur, dans nos téfilades de chaque jour, dans nos moments d'intimité avec toi, dans ces moments privilégiés où nous sommes en dehors de tout, où nous sommes dans le temps du Shabbat, le temps de ta lumière, le temps de ta vie, le temps de ton règne. Où nous sommes dans l'intimité de ton nom. Dans ce temps de Shabbat, alors que nous sommes dans les Chadodis, nous pouvons dire aussi que nous t'attendons, toi, notre fiancée. La Kala, elle se purifie, elle se lave, et elle ne continue pas dans sa souillure. C'est pourquoi Maranatha Yeshua, nous attendons ton règne. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendez.
ces choses arrivées, gardez-vous d'être troublés. Vous levez la terre, votre délivrance s'approche. L'esprit et l'épouse disent bien, celui qui entend disent bien, celui qui a soif. Celui qui le veut, prenne l'eau de la vie, gratuitement. Amen.
Ce jour sera un jour de gloire. Là, tu recevras toutes les couronnes de toutes les nations. Car toutes les nations viendront se prosterner devant ton nom, devant toi, Yerushalayim, dans la cité que tu as choisie pour y faire résider ton nom. Là où sera le Beth Amikdash, le temple reconstruit, le temple de ton nom, mais où sera dévoilée la grandeur et la gloire de ton nom. Et pourquoi nous voulons réellement te bénir, car ce temps de Shabbat est un temps de royauté, un temps du Olam Haba, du monde futur. C'est le temps du temps qui vient. C'est le temps où nous nous préparons à être avec toi. C'est le temps où nous vivons en toi. C'est le moment où nous relions notre cœur à ton nom. Alléluia, Yeshua Mashiach. Yeshua, neromen otra, v'nachiyas et malchuta, v'yomicha v'kirbenu, neromen otra b'shir.
Nous te louons.
proclamer la gloire de ton nom. Nous voulons avoir un cœur qui soit réellement dans ce qui loue ton nom. Pas simplement chanter, pas simplement avoir une voix qui parle aujourd'hui, mais c'est une voix sanctifiée qui loue ton nom, qui loue de toute sa force et de tout son cœur le nom de Yeshua. Il est bon de louer et de chanter en l'honneur de ton nom, de célébrer ton nom dès le réveil, de pouvoir élever notre voix à toi et te confier notre vie dans tout ce qui sera. Sois béni, Yeshua, parce que nous savons que notre itinéraire est tracé dans notre cœur par toi et que nous avons trouvé ce chemin. Garde-nous de nous en éloigner, de le contourner.
Le Adonai, Vémon à Tramalélo, Copléodata la donna, pour les amers, les chimpas et lions, les agil, babon, kerras, les rats, Vémon à Tramalélo.
À toi, Yeshua, à ton nom rend gloire. Amen.
Vous avez des nouvelles?
Non, c'est toujours un peu stationnaire.
On prie toujours pour rien.
Ça ne s'aggrave pas, mais ça ne s'améliore pas.
Nous prions.
Merci. Bien sûr. Est-ce qu'on a un micro? Salomé va nous faire une annonce. Soyez bien attentifs. Elle est très importante. Parle bien devant les micros.
Avec ma petite sœur, on a confectionné des médailles, des boucles d'oreilles, enfin voilà, pour le voyage des garçons pour Cracovie. Et on va les vendre. C'est juste pour prévenir. Voilà.
Shabbat Shalom. Le samedi prochain, nous avons notre temps de prière. Alors, il commence à 10h30 et il se termine à 14h30. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'il y a encore une annonce? C'est bon? Il y a la maman de Sylvain, qui est membre dans l'Assemblée, qui est le cousin de Chantal. Elle est décédée là dans la semaine, je crois. Donc toutes nos condoléances, je ne sais pas où est Sylvain, mais toutes nos... Ah, il est en Côte d'Ivoire. Donc toutes nos condoléances, hein, si vous voulez, de la part de l'Assemblée, et que l'Éternel soit avec lui. Je n'ai pas particulièrement d'annonce, mais on va dénoncer. Non. Ah oui, ben.
Bonjour, Shabbat Shalom à tous. C'est pour vous annoncer qu'à la fin, il y aura une vente de gâteaux qui aura lieu.
Oui, oui, oui. Vous avez pris des sous aujourd'hui, hein? Entre les bracelets, les je sais pas quoi.
Les gâteaux.
Et les gâteaux. Oh là là. Voulons bénir l'Éternel. On n'avance pas trop mal dans les travaux. Maintenant, un certain nombre de choses vont pouvoir accélérer. Et on va bientôt pouvoir enfin dire ouf. Ça aura mis un peu de temps, mais c'est valable. J'ai été la semaine dernière à Genève et... Le vendredi soir, dans les rêves Shabbat, j'étais à Chabornay. Il faut reconnaître que l'Éternel fait vraiment une belle œuvre là-bas. Et que beaucoup de choses sont encourageantes. Et qu'il faut prier parce qu'il y a aussi des projets qui se mettent en place. Il y a un certain nombre de choses qui commencent à prendre forme. Et je crois que, ben voilà, progressivement, il y a véritablement des choses qui vont évoluer. Ce ne sera plus simplement que des temps d'enseignement, mais il y aura des temps de séminaire, il y aura un petit peu plus de choses. Il y a une grande soif, il y a aussi beaucoup. Vous savez, vous ne réalisez peut-être pas, mais Chavornay comme Lausanne, mais Chavornay comme Genève, mais surtout Genève, c'était la cité de Calvin, Jean Calvin, le réformateur. Tout le monde n'est pas calviniste, et pourtant la pensée profonde chrétienne occidentale et française tire beaucoup de sa croyance calviniste. Simplement, comme beaucoup ne connaissent pas quelle était la pensée de Calvin, ils ne savent pas exactement d'où ça vient. Je pense que toi, en Suisse, tu as beaucoup entendu parler de Calvin. Ce n'est pas le seul réformateur suisse. Il y a aussi Farel, Zwingli. Il y en a plusieurs. Et c'est quand même quelque chose qui est très important parce que ça heurte un peu les traditions. Et Dieu sait si, à Genève, ils sont très attachés à un certain nombre de choses. Donc il y a même encore là-bas une paroisse, une église où Calvin a exercé, parlé, enseigné. Elle est encore en fonction. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de parler là-bas, mais ça c'est autre chose. Très important de prier pour que les mentalités changent, autrement dit que les cœurs commencent à s'ouvrir à la compréhension d'Israël. Commence à s'ouvrir à la pensée d'Israël, pas seulement d'avoir la sentimentalité d'Israël, d'aimer un pays parce qu'on y va en tourisme, c'est beau, on va à la mer morte, on flotte, on va là-bas, c'est super, il y a la mer, il y a les lieux à visiter, mais de savoir que c'est beaucoup plus que ça. Et lorsque nous parlons justement de la réalité d'Israël, nous ne parlons pas simplement que de quelque chose qui doit être visité touristiquement, mais qui doit ramener une réforme de la pensée par rapport à la théologie de la substitution qui s'est établie dans les siècles passés, afin de ramener le cœur des enfants d'Israël, afin que la Torah revienne à Sion. Voilà. Dimitri va invoquer l'Éternel pour nous.
Éternel mon Dieu, je te bénis Père pour ce jour de Shabbat, ce jour saint. Je te prie, Seigneur Dieu, mon roi, de bénir notre assemblée, Père. Je te présente aussi ces dîmes et ces offrandes que je te prie de bénir, qu'elles soient utilisées, Père, pour l'avancement de ton œuvre, Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu, mon roi. Et que nous puissions, Seigneur Dieu, mon roi, continuer à grandir dans l'appel dans ce dont quoi tu nous as appelé, Père, dans cette mission, Père, que tu nous as donnée. Je te prie de bénir le peuple d'Israël, Père, que nous soyons une lumière, Père, pour eux, une lumière qui apporte la lumière du Machiav, du Messie d'Israël, Yeshua Machiav, Père. Et je te prie de garder nos cœurs en toi, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen.
Christian nous a bien introduit dans la paracha d'aujourd'hui. Et dans mon cheminement de l'étude, de la réflexion concernant la paracha, je me suis rendu compte que même s'il y a un ensemble de choses qui forgent cette paracha d'aujourd'hui, comme un point d'arrivée pour passer à quelque chose dans une dimension de la compréhension, je me suis rendu compte que l'être humain est aussi un peu pareil. Il oublie très vite ce qu'il a vécu, il oublie très vite les engagements qu'il a pris, il oublie très rapidement les vœux qu'il fait à l'Éternel. Et il passe tout de suite à autre chose. On a l'impression qu'il distance à ce niveau-là un passé d'un présent par rapport à un futur et que voilà, ce qu'il a dit hier n'a pas obligatoirement de l'importance dans le « aujourd'hui ». Or, c'est tout l'inverse. Le « aujourd'hui » est forgé Dieu hier. Ça, c'est la pensée purement hébraïque. Le « aujourd'hui » est forgé d'hier. Le futur, c'est le poids du passé. Et si nous n'arrivons pas à capter cette dimension de vie et d'existence, il est clair, net et précis qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Parce qu'on a l'impression qu'il faut distancer, séparer. Or, c'est un tout, ça fait partie de notre existence, ça fait partie de notre vie, ça fait partie des expériences, même si elles sont parfois négatives, même si elles ont un poids de souffrance et de douleur, elles sont intégrées, elles font partie. Et dans mon cheminement, durant la semaine, je me disais, mais si j'aborde la paracha d'aujourd'hui, je me poserai la question, qu'avons-nous compris d'hier ? Qu'avons-nous compris ? Qu'avons-nous mis en pratique hier pour pouvoir aller plus loin aujourd'hui ? Que mettons-nous en pratique, autrement dit ? Est-ce que nous sommes simplement dans quelque chose où, voilà, nous entendons, nous passons à autre chose et nous oublions et nous cherchons encore autre chose et malheureusement, ça nous rend comme si nous étions non concrets avec l'Éternel. Or, ce que Dieu veut, c'est le concret. C'est que nous soyons concrets dans ce qu'il dit, dans ce qu'il attend. Autrement dit, si je vais plus loin dans la pensée d'Israël, il attend que nous ayons une conformité. Il attend que nous ayons réellement une réaction positive à ses paroles. Il attend que nous mettions en pratique et que nous puissions marcher dans ce qu'il nous a dit et non d'occulter, de rejeter, de trier, soi-disant parce qu'on n'a pas compris ou parce qu'on entend mal ou parce qu'on entend d'autres choses ou parce que nous avons reçu une éducation différente. Or, la voix de l'Éternel ne se modifie pas, elle reste la même. Ce que Dieu a dit est éternel. Nous ne pouvons pas le modifier ni l'adapter au bon vouloir humain. Et donc, ça nous amène à réaliser que à quoi ça sert d'aller plus loin si on n'a pas réussi à passer un cap d'hier. Et à ce propos, je vais entrer dans une dimension afin qu'elle serve véritablement de base, de fondement. Et ce que nous devons comprendre, c'est que si notre cœur n'a pas de fondement solide, il se détruit dans le futur. Par les épreuves, les difficultés, par les conflits, par les comportements, par toutes sortes de choses, parce qu'il sera sur un sol, malheureusement, qui n'est pas stable et solide, c'est-à-dire nous construisons sur du sable. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons des fondements, c'est-à-dire quelque chose qui, quand cela a été fait, ça ne bouge pas, quelle que soit l'usure du temps. Ça reste au même endroit. Ça ne se modifie pas. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas éprouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dangers, des risques. Mais ce que cela nous enseigne, c'est que ça ne bouge pas. Et ça ne s'effondre pas. Et la maison peut demeurer et passer les années, voire les siècles, de manière durable. Ce qui est construit à la légère, passe et s'effondre dans les mois et les années qui viennent, parce que le fondement n'est pas solide. Parce que ce que l'on croyait être profond n'était qu'émotionnel, n'était qu'en surface, n'était que superficiel. Et cela amène à un moment donné que, ben voilà, avec le temps, il ne reste plus grand-chose. Et l'Éternel nous amène à vouloir comprendre que nous devons construire non pas dans n'importe quelle façon, de n'importe quelle façon, ni dans n'importe quelle dimension. Il y a une règle absolue, totale, invariable. C'est que Dieu construit dans la sainteté. Le mélange n'en fait pas partie. D'où le fait que, même quand Christian a lu tout à l'heure les ingrédients précis, pour une seule utilisation et pas une autre, au niveau de l'huile, par exemple, ou de l'encens. L'encens, c'est ce qui accompagne la prière, c'est ce qui donne une odeur de vie ou de mort devant Dieu. Et lorsque l'on comprend la dimension de la sainteté, c'est quelque chose qui va plus loin que simplement le mot. C'est d'établir une forme de vie, d'existence. C'est une séparation. C'est un choix qui n'est pas obligatoirement simple, mais combien efficace. Alors, nous pouvons avoir entendu 1000 messages, 1000 millions de messages lus, des centaines de milliers de livres sur la sainteté. Nous pouvons comprendre aujourd'hui plus que jamais, avec tous les moyens qui sont à notre disposition, ce que veut dire la sainteté de Dieu. Et que la sainteté de Dieu était réellement marquée en lettres d'or sur la tiare du souverain sacrificateur, Kadosh l'Adonai, sainteté à l'Éternel, sainteté à son nom. Ce n'est pas simplement avoir une idée, une notion intellectuelle de la sainteté. C'est la sainteté de son nom. Et vous allez voir au fur et à mesure un certain nombre de choses qui sont en rapport avec toute cette dimension. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, et ça c'est l'erreur qui a été commise dans les siècles passés par la réforme, c'est d'avoir tellement individualisé, rendu personnel les choses par rapport à Dieu, qu'on en a oublié l'élément essentiel, la maison de Dieu. On en a oublié que l'Ecclésia, la Keïla, c'est une communauté rassemblant des gens de différentes nationalités, de différents arrière-plans, d'expériences différentes, de sensibilités différentes. Mais ça, c'est la Keïla. Et que la sainteté, ce n'est pas simplement purement une adaptation personnelle à sa manière de vivre, à soi et au niveau de sa compréhension propre. C'est quelque chose, quand on parle de la sainteté de son nom, on parle de la maison qu'il établit. Bien sûr qu'il y a cet aspect, mais par rapport à Dieu, ce n'est pas l'aspect le plus fondamental. C'est celui de la Keïla, celui de la maison. Keïla, ça veut dire une assemblée, ça vient de Knesset, c'est un lieu où on se rassemble. Et en même temps, quand on parle de l'Ecclésia, nous parlons de gens qui se rassemblent devant Dieu, mais en étant tous différents, même sur le plan social, même sur le plan de tout ce que vous voulez mettre. Mais Dieu veut une maison sainte. Il ne veut pas simplement une personne dans la maison sainte. C'est là que ça devient un peu crucial. Il ne veut pas simplement 10 personnes saintes, un minyan. Il veut que tous ceux dans la maison. Et vous savez comment même la paracha pourrait le traduire comme ça. On le traduit, vous serez pour moi une nation de sacrificateurs, une nation sainte. Alors vous pourrez dire, oui, mais toutes ces lois qui sont liées à Lévitique, qui sont très compliquées, ça ne concerne que les Juifs. C'est l'Ancien Testament. C'est le livre des Juifs. Ça, en quoi nous, dans la grâce, on est concernés? T'as lu Apocalypse? Il ne dit pas moins que cela. Il demande également que nous soyons dans l'alliance du Messie, une nation sainte et un peuple de souverains sacrificateurs. c'est-à-dire de gens qui sont des modèles dans le service de la sainteté de Dieu. Être souverain sacrificateur, c'est pas avoir une onction et dire j'ai l'onction pour ci, pour ça. Et d'ailleurs, quand on fait des enquêtes très poussées sur le plan médiatique, il est démontré et prouvé, lorsqu'on passe les maladies ou les personnes ayant eu des problèmes au crible, il est dit, et même les gens le reconnaissent, ils ne guérissent pas. Il y a très peu d'authentification. Il y en a. Mais cela veut dire quoi ? Non pas que Dieu ne guérit pas, mais que si le peuple tombe malade et que la guérison n'est pas, Dieu veut dire qu'il y a problème. Et quand il y a problème, il y a toutes sortes de maladies, même mentales, même psychologiques, et tout un tas d'autres choses. Donc il faut être vigilant. Et ce que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui, c'est de comprendre aussi le sens de la sainteté collective. Et non pas simplement vivre pour lui-même, dans sa sphère à lui, pensant que lui tout seul, il est tout saint, et que les autres sont tous des impurs, n'ont pas son niveau, n'ont pas son degré, n'ont pas sa performance. Ça va plus loin. Alors, on va commencer à aller quand même un petit peu plus loin, un petit peu plus en amont, parce que il nous faut vraiment capter cette pensée principale pour comprendre quel est le fondement que Dieu va mettre dans notre cœur. Mais quand je dis dans notre cœur, je parle à toutes les différences que nous représentons, à tous les arrière-plans que nous représentons dans une seule pensée, celle de la Torah, celle de la maison de Dieu, telle que Dieu la conçoit, la manière dont Dieu veut que nous vivions dans sa présence. Et ça nous amène à comprendre que Dieu nous a donné le modèle et qu'il y a un modèle. Dieu ne nous a pas simplement parlé, mais Dieu a donné un modèle. Et le modèle, on le trouve au travers de beaucoup d'éléments, comme il a été dit tout à l'heure, au travers de différents symboles et ce que l'on a vu également dans les semaines passées. Mais là, on va aller vers quelque chose de plus élevé. Et qu'il faut comprendre qu'il y a un modèle extraordinaire que Dieu nous a légué en héritage. Et ce modèle, c'est celui d'Aaron et Moshe. Autrement dit, ceux qui représentent réellement la sacrificature, c'est pas seulement Moshe, c'est Aaron et Moshe. C'est le monde de la prêtrise. C'est le monde qui est réellement pour le peuple le modèle. Mais en même temps, j'ai voulu réfléchir à quelque chose qui va plus loin que simplement cet aspect qui touche le Mishkan, et donc là où l'on pourrait dire, mais ça concerne le peuple juif, c'est ancien, le tabernacle, après éventuellement le temple, et puis même au temps de Yeshua, il y avait le temple, mais le temple est détruit aujourd'hui, donc il n'y a plus de modèle. Aujourd'hui, où sont les souverains sacrificateurs ? Ils y sont, ils existent encore aujourd'hui. Il ne faut pas croire que c'est parce que le temple a été détruit que le modèle est détruit. Parce que le modèle que Dieu a établi est un modèle éternel. Simplement, il faut comprendre ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière nous conduit, et je ne pourrai pas aller dans les quatre niveaux, mais j'irai dans le premier, celui de la compréhension, puis dans celui de l'analyse. Et je m'en cantonnerai là, parce qu'autrement, on est là jusqu'à 10h ce soir. Mais si vous voulez rester, on reste. Moi, ça ne me gêne pas. J'ai l'habitude. Hein, c'est vrai. Moi, pas de problème. En plus, ma femme, elle rentre demain, alors ça va, j'ai tout mon temps. J'ai voulu comprendre quel est le modèle qui s'est construit après la destruction du temple. Modèle de prêtrise. Alors, beaucoup ont basé sur les épîtres dites de Paul, autrement dit, les épîtres pauliniennes. Et on a remplacé la prêtrise, qui normalement est avec la voix des Kérouvim, avec la dimension de la hiérarchie angélique, on l'a retraduit au travers de Chaliar, qui n'est pas apôtre à proprement dit, mais envoyé. Ensuite, quel est le deuxième? Vous connaissez ça mieux que moi, normalement. Enfin, ça, c'est un thème que je connais bien quand même. Il a donné les uns comme Chaliar, envoyé, apôtre, s'il vous plaît, prophète. Alors, envoyé. Ben dis donc, vous avez des progrès à faire, il faut refaire une école du dimanche ou quoi? Je ne vais pas vexer quiconque, mais si vous ne savez pas ce béaba là, j'ai de quoi m'inquiéter. Réellement de quoi m'inquiéter. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste et après pasteur. Quels sont les ministères que vous connaissez le mieux? Indépendamment. C'est celui de roé, de berger, de pasteur. Et ensuite, on essaye aujourd'hui d'adapter des espèces de ministères qui sont locaux comme ça, individuels, et où ça met plus de désordre que de l'ordre dans la maison. Alors, j'ai voulu rassembler un certain nombre d'éléments et tenter de comprendre qu'est-ce qui fait que, depuis la destruction du temple, cette maison qui est devenue l'Ecclésia, où il y avait beaucoup de juifs au départ, et qui progressivement s'est vidée de ces juifs. Progressivement, cette maison s'est vidée. Et elle s'est remplie de plein d'autres gens, mais complètement hors de leur contexte et de leurs racines. Hors de l'identité du Messie, tout en évoquant ce Messie juif, hébreu. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était comme ça. Et on ne parlait jamais, ou rarement, du Kohen Agadol. On parlait rarement de la fête de Yom Kippour. Les fêtes dont on se rappelait, mais qui ont été modifiées par Constantin et d'autres, étaient Pessah, la Pâque, enfin les Pâques dans la tradition réelle. Les Pâques, Pentecôte, et c'est tout ce que l'on a retenu en pratique de la racine juive du Messie. Il y avait peut-être deux, trois petites choses, mais plein d'autres fêtes se sont greffées dessus, qui n'ont rien à voir avec le modèle de la maison de sainteté. Et on a commencé à faire plein de fêtes avec des nouveaux noms qui ne sont même pas issus de la Bible, mais qui sont complètement extérieurs, voire païennes, et qui étaient quelque chose d'admis à l'intérieur et en pratique, au point qu'aujourd'hui encore, il y en a, ça ne les remet même pas en question, certaines fêtes, même si elles ont une origine païenne. Ça ne les dérange pas. Ils disent, mais après tout, oh ben, il faut bien le faire. Et donc, il n'y a pas une remise en question. Et j'ai voulu encore comprendre davantage, et je me suis dit, mais alors, quel est le fonctionnement de cette maison depuis la destruction du temple? Quel est le modèle que nous avons reçu? Alors, il n'y a pas de modèle précis que Paul a donné. Il n'y a pas. Et un homme ne peut pas donner un modèle. Dieu donne les modèles. Le modèle est celui que Dieu a donné pour tous les temps et pour toute éternité. Ensuite, et effectivement, avec tout cet apport de juifs et de non-juifs, il fallait bien qu'il y ait des compréhensions, des fonctionnements différents, et notamment pour les juifs dans le monde de la diaspora. Mais quand tout s'est vidé de ces juifs, on est rentré dans d'autres niveaux. Alors si nous prenons historiquement, nous allons voir que avant que l'on reconnaisse un ministère pastoral, entre guillemets, il y avait ce que l'on appelait le souverain pontife, le pape. On a remplacé. on a modifié. En construisant une nouvelle maison, une nouvelle entité spirituelle, en bâtissant sur d'autres normes que celles de la Torah, celles que Dieu a données. Et on a commencé à avoir des évêques, des archevêques, etc., qui sont les hiérarchies. Et ça a fonctionné comme ça pendant près de 1000 ans. Et ensuite, il y a eu le temps de la réforme. Dans le temps de la réforme, tout à coup, on a rejeté l'autorité papale, on a rejeté cette forme d'autorité hiérarchique, pleine et imposante, pour passer à une autre forme plus collégiale. Et aujourd'hui, on est dans des modèles synodales, etc. On est dans plein de différents modèles. Et il n'y a pas une seule qui fonctionne sur le même modèle. Et il n'y a pas de modèle qui soit un modèle pour que les autres se conforment à ce modèle. Chacun l'adapte en fonction de la compréhension qu'il a du modèle qu'il veut exercer. Alors, il faut comprendre que si j'ai dit tout cela, c'est qu'aujourd'hui, dans ce temps que nous vivons, il y a un temps où Dieu restaure la pensée d'Israël. Parce que quand cette maison s'est vidée de ses Juifs, aujourd'hui, les Juifs reviennent dans la maison. Ils remplissent leur maison. Et les non-Juifs veulent découvrir ses racines. Ils veulent voir et comprendre un peu ce que cela signifie dans les temps d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a des Juifs et des non-Juifs parmi nous, de toute nationalité, avec tous les arrière-plans, avec tout ce que vous voulez. Simplement, il y a une règle. La conformité est dans la Torah. Elle n'est pas dans le modèle de Constantin. Elle n'est pas dans le modèle que les autres ont construit, dont Dieu n'a donné aucune directive, dont Dieu n'a même pas dit un mot à ce sujet. Et donc, on revient au modèle de base. Et vous allez voir quelle gloire on va découvrir quand on veut se conformer au modèle de base et de comprendre que la maison de l'Éternel est une maison de sainteté, je le répète, et que le modèle est dans la prêtrise. Alors, on va essayer d'avancer un peu et de découvrir un certain nombre d'éléments. En quoi, finalement, la prêtrise est révélée? Dans quoi la prêtrise, pouvons-nous dire aujourd'hui qu'elle peut révéler les secrets cachés de Dieu, mais aussi qu'ils sont le révélateur de la manière dont Dieu veut être servi? Parce que derrière, il faut voir l'invisible. Alors, au travers de la prêtrise, c'est dans les vêtements. Le souverain sacrificateur ne devait pas être habillé comme les communs du peuple. Premièrement, aujourd'hui, il y en a même qui sont en short. Non, mais soyons honnêtes, avec des tenues vestimentaires non conformes à la présence de Dieu. Il y a plein de lieux où ça devient scandaleux, où ça devient quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas bon, et qui n'est pas du tout adapté à ce qu'on puisse réellement tourner notre cœur vers l'Éternel pour le louer et l'adorer. Les yeux, les pensées sont détournées. Et quand les yeux et les pensées sont détournés, ils ne sont plus concentrés sur Dieu. Mais autre chose. Et là, il faut se dire, alors, même la prière, même ce qu'on appelle louange peut être détourné. Oui. Alors, ce que j'appelle, moi, personnellement, dans les vêtements de la prêtrise, ce sont les vêtements de l'âme. Et là, je ne parle pas de vêtements qui couvrent le corps. Ce n'est pas de ces vêtements-là que je parle. Je parle des vêtements de l'âme. La manière dont Dieu nous voit, parce que Dieu ne voit pas le corps physique. Ce n'est pas le corps physique qui intéresse Dieu. Ce n'est pas la forme du corps, que tu sois gros, mince, en forme de poire, de pomme, de banane ou de je ne sais quoi, ou dans la taille haricot vert à la mode maigrelette. Eh bien, oui, c'est la mentalité des mannequins d'aujourd'hui, c'est la mode anorexie. Hein, la taille haricot vert, c'est anorexique. Et c'est une grave maladie mentale aujourd'hui. Il ne faut pas croire que ça n'a pas de répercussions et que c'est sans signification tout cela. Le vêtement, il suit l'évolution de la société, il parle, il est un reflet et il dit qui on est et à qui on appartient. Le vêtement, très souvent, désigne tout cela. Alors, je parle de ce vêtement qui recouvre l'âme et pourquoi Dieu a donné non seulement des couleurs, mais également des détails sur le tissu, comme si Dieu avait du temps à perdre à donner des détails pareils. Alors maintenant, on va commencer à entrer un peu plus loin. Rappelez-vous, nous voulons un socle, un fondement sur ce qui construit sa maison. Il est dit que la nudité, telle que la Bible en parle, ce n'est pas la nudité physique qui embête l'Éternel ni Dieu. Ce n'est pas la nudité physique qui est l'obstacle à une relation à Dieu, mais la nudité de l'âme, de la neshama. Parce que quand l'âme est nue, elle n'est pas habillée. Quand elle n'est pas habillée, Dieu ne voit pas. Et lorsque je veux faire entendre ce mot « nudité de l'âme », c'est tout simplement que la lumière a disparu. Et que la lumière qui n'est plus, c'est-à-dire que l'âme s'est plongée elle-même dans les ténèbres et l'obscurité. Et la nudité devient un élément clé sur la compréhension spirituelle. Et pour bien saisir tout l'ensemble, la quintessence de la paracha, avant qu'on n'y entrera pas, mais si on voulait saisir tout ce qui est réellement dans la paracha d'aujourd'hui, tout est là. Eh bien, il est fondamental de bien comprendre non seulement le sens du texte, lié à Netilat Yadayim, parce que vous n'avez peut-être pas compris, vous n'avez peut-être pas lu ou vu, dans ce que, par exemple, Christian a mentionné tout à l'heure, la cuve, non pas des reins, mais celle qui est en cuivre et qui servait à la purification, où le souverain sacrificateur devait se laver les mains et les pieds. Savez-vous que nous le faisons encore aujourd'hui, nous juifs, dans le Shabbat, à chaque fête. Cela fait partie, chaque fois que l'on doit aborder la sainteté de Dieu dans une fête, dans le Shabbat, ou dans un moment relativement saint, la première des choses, nous devons faire Netilat Yadayim. C'est-à-dire de laver trois fois la main pour qu'elle soit purifiée. Chaque main doit être lavée. Et lorsque nous le faisons, nous le faisons dans le Birkat Hamazon de Erev Shabbat. Et dans le Shabbat, cela est resté. Si vous voulez imprégner la compréhension, il faut savoir que la pratique, même si on n'a pas cette grosse cuve de cuivre aujourd'hui, nous avons gardé le principe de la purification. Et que cela signifie que l'on ne s'approche pas devant l'Éternel dans n'importe quelle condition. Et que cela nous amène à comprendre que c'est le sens de la bénédiction. Alors, tout a été mentionné tout à l'heure, le demi-shekel, le veau d'or. Mais là où je veux en venir maintenant, c'est que Aaron et Moshe sont les modèles, mais eux-mêmes ont puisé leur source où pour avoir ce modèle et devenir le modèle aux yeux des autres. Alors c'est là que maintenant, ça devient fondamentalement important. C'est que Aaron et Moshe, mais surtout Moshe, a vu le modèle de la prêtrise en haut. Il n'a pas un modèle qu'il s'invente. Il n'invente pas une tenue vestimentaire pour être dans une nouvelle mode, pour se distancer des nations et des prêtres païens, mais il fait d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne, ce modèle qui a été en haut et ce modèle qui n'a pas changé, car c'est ce même modèle qui reviendra lorsque les temps de la fin seront accomplis dans la nouvelle Yerushalayim, c'est le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, qui descendra auprès des hommes. Il faut comprendre que c'est ce modèle-là qui demeure éternellement et que ce n'est pas le modèle qui s'est construit après la destruction du temple sur des fondements païens. Et j'ose le dire, sans crainte, même au risque de vous blesser ou de vous vexer. Mais il faut être vrai. Le fondement est païen et n'a rien de divin. Et je crois que à partir du moment où l'on veut rentrer dans la vérité et que l'on veut réellement la vérité et pas une forme religieuse, ni même savoir comment faire Shabbat ou savoir ça ou ça, ça c'est si tu n'as pas compris le fonctionnement de sa maison, il y a quelque chose qui s'effondrera dans ta foi dans les mois, dans les années qui viennent. Et tu ne tiens pas. Et beaucoup de gens, après avoir fréquenté un temps, vont à autre chose, changent, parce qu'ils n'ont pas de maison stable, parce qu'ils n'ont plus de modèle, parce qu'ils n'ont pas construit, même intérieurement, sur le vrai modèle. Alors, fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On le retrouve autant dans le passage de Shemot de l'Exode, chapitre 24, que dans l'Épître aux Hébreux. Fais d'après le modèle. Fais d'après, Moshe, le modèle qui t'a été montré. Donc, fais ce que tu as vu. Et je le disais il n'y a pas très longtemps aussi, l'une des choses qui est très frappante, c'est quand Yeshua nous dit aussi, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois en haut. Et je le reproduis. Et c'est là que nous avons la compréhension que même Yeshua Mashiach n'est pas venu comme ces espèces de prédicateurs qui arrivent et puis qui font du vent partout. Mais que lui, il voyait et qu'il faisait. Après, nous pouvons maintenant comprendre qu'il ne s'agit pas simplement du Mishkan terrestre, de quelque chose qui était, entre guillemets, pour la forme provisoire, en attendant le Beth Amikdash, en attendant la construction solide du temple. Mais là où on va insister, c'est sur celui du souverain sacrificateur et de ses vêtements. Alors, je veux juste donner quelques points, un aperçu, qui finalement m'a conduit un peu plus loin, mais on ne va pas être perdant. Il nous faut bien avoir quelques notions précises pour bien saisir. Yeshua, Amashiach, Yeshua le Messie, est notre souverain sacrificateur dans les lieux célestes. Non ? Comment est-il habillé ? Dites-moi, il est souverain sacrificateur. C'est un titre, mais le titre veut dire habillement.
Il a une grande robe.
Dis pas de bêtises. Une chose est sûre, il n'est pas en mini-jupe. Il n'est pas en costard, cravate. Non, mais c'est des images un peu caricaturales, clichés. Mais la réalité, c'est ça. Alors, regardez bien. Il est notre souverain sacrificateur. Qui, Moshe, a-t-il vu sur la montagne ?
Yeshua.
Yeshua Amashiach. Si il fait d'après le modèle, et pas une partie de ce modèle, tout le modèle, toute la reproduction, il a fait. Donc si Yeshua est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non ? On est bien d'accord. C'est le grand mystère. Moshe a vu. Et parce qu'il a vu, il peut faire. Il peut reproduire sur lui, physiquement, humainement. Et comme ça, les gens du peuple peuvent voir, au travers de l'habillement, tout le sens, la signification, la profondeur de la manière dont le service de Dieu sera accompli. Alors, ce qui a été vu par Moshe est vraiment ce modèle d'en haut. Alors, on va lire juste quelques versets provisoirement et vous allez comprendre un certain nombre de choses après. Hébreux 9 et Zivrim, Hébreux 9, pardon, ah, tu y es presque, 23, Hébreux 9, 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses, les images comme nous avons été faits à l'image, c'est le même terme. Waouh! N'oublions pas que nous sommes créés à l'image de la divinité. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Celles qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Car Machiar n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ça, c'est la prêtrise. Hébreux 3, 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez le chaliard et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alors, si nous restons dans la deuxième maison, nous pouvons comprendre le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui même apôtre. Mais alors, dites-moi, comment considérer le souverain sacrificateur s'il a disparu de la maison ? Yeshua, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, fut moché dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moché que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Et vous pouvez lire tout le reste et vous verrez la conformité. Sans aucun problème. On continue. Hébreux 10. Et les versets normalement 12. Un verset fondamentalement important. On va lire à partir du verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et ça, c'est fondamental. Hébreux 2. En conséquence, il a dû être rendu semblable. Écoutez bien. C'est d'en haut par rapport au bas. Il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple et pas seulement d'un homme ou d'une femme. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous avons un bref aperçu. Il y aurait encore beaucoup, mais nous voulons aller plus loin. Nous devons comprendre que la Keïla, la maison dans laquelle nous sommes, à laquelle nous appartenons, c'est que nous sommes des Hébreux messianiques. Nous ne sommes pas des chrétiens messianiques. Nous ne sommes pas des protestants messianiques. Nous sommes des Hébreux messianiques. Nous sommes attachés à la Torah, à la terre d'Israël, à tout ce qui constitue l'héritage d'Israël, sans aucun rejet. Quel est l'héritage qui s'est constitué dans la deuxième maison, celle qui s'est construite hors du modèle d'Israël. Quel est l'héritage ? Quel est le modèle ? Même l'enseignement. Quelle est la pratique ? Donc, j'arrête avec non pas les polémiques, mais avec ce qui peut fâcher. Je suis conscient, mais il y a une chose que Dieu m'a donnée et à laquelle je ne me dérogerai jamais, c'est de dire ce qui n'est pas vrai, c'est de relever le mensonge dans lequel on vit et auquel on veut croire pour justifier une non-pratique, pour justifier le rejet même de la foi de l'hébreu messianique, pour penser qu'il y a supériorité, eh bien non. Et quand on regarde bien les modèles qui se sont construits, nous voyons les bases de ces modèles. Et nous voyons qu'il y a une réflexion à avoir. Seul et uniquement celui qui est profondément droit, honnête, pur dans son cœur, qui cherche avec intégrité la vérité d'Hachem de Dieu, acceptera. L'autre critiquera, rejettera, retournera ailleurs, ira ailleurs. Et je vais juste à ce sujet relever que par rapport à la fête même de Shavuot, il y a quelque chose qui est étonnant dans ces modèles qui se sont construits. Il y a à la fête de Shavuot une lecture que nous faisons sur le livre La Megillah de Ruth. Et dans la Megillah de Ruth, nous voyons ces deux jeunes filles qui accompagnent Naomi et finalement, c'est des non-juives. Et c'est ce que, normalement, aurait dû se faire dans les siècles passés. C'était d'accompagner ces juifs Israël afin que l'accomplissement dans le Messie se fasse. Alors, il y avait deux filles. Il y a Ruth et Orpa. Ruth est celle qui a dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Non ? « Ton peuple sera mon peuple ». Mais Orpa ne l'a pas dit. Et Orpa, on pourrait l'imaginer dans bien d'autres domaines. Maintenant, pour aller très vite et dire que tout a une réalité future, que rien n'est pas simplement anodin dans son présent, que même les choix que l'on justifie pour faire le mal ne sont pas anodins dans le futur. Jamais, jamais, jamais. Ruth est devenue l'ancêtre de David. Elle est rentrée dans la lignée du Mashiach. Elle a construit la lignée de la royauté davidique qui n'existait pas encore. Elle a été l'élément clé, fondamental de cette lignée. Mais alors, on pourrait faire ce que nous avons tous fait dans le passé, ne jamais s'intéresser à la descendance de Orpa. Et Orpa qui a accompagné jusqu'à un niveau. Parce qu'il y en a beaucoup qui, à un moment donné, ne pourront pas quitter leur tradition, ne pourront pas quitter certaines habitudes. C'est trop dur, parfois. Et on peut se poser la question, jusqu'où ça ira? Alors, regardez. Si Ruth est devenue l'ancêtre de David, le roi, l'image du Mashiach. La descendance d'Orpa a donné Goliath. Goliath est le fruit du rejet d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait, Goliath? Il a voulu asservir Israël. Qui a délivré à ce moment-là? Ce n'est pas l'armée de Shaoul. Ce n'est pas l'armement militaire, ce n'est pas la stratégie militaire, ce n'est pas la politique politicienne. Ça a été la pierre de David. Et c'est ainsi que la royauté de David a pris place. Il faut savoir qu'il y a toujours une descendance aux actes, aux décisions, aux choix. Et que ce n'est pas de ma faute, mais il y a quelque chose qui se produit à chaque fois que nous faisons un choix de conscience. Je ne parle pas d'un choix dû à la colère, à un énervement, mais un choix de conscience. Un choix de conscience. Là, il n'y a pas l'innocence devant Dieu. Et c'est pourquoi, en tant qu'hébreux messianiques, nous devons sans cesse nous référer à une chose. Dans les filtres de l'histoire, c'est vrai. Mais nous devons nous référer uniquement à ce qui va amener, conduire à l'accomplissement des prophéties. L'accomplissement des prophéties, uniquement. Et non d'essayer d'établir des espèces d'implantations à modèle, mais d'accomplir ce qui est dit par les prophètes. Ce que Dieu a donné pour que tout s'accomplisse. Yeshua Mashiach n'est pas venu abolir ni la loi ni les prophètes, mais pour l'accomplir. Et quiconque rejette, ne serait-ce que la plus petite lettre, le iota, n'hérite pas le royaume de Dieu. Conséquence dans la deuxième maison. Conséquence dans la deuxième maison. Réfléchissez. Bien sûr que ça ne fait pas plaisir, ce que je vous dis. Après, ça va vous faire plaisir, ce que je vais dire. Mais pour l'instant, il faut passer par un déracinement du mal, du mensonge. Et ça passe par l'honnêteté. Si tu es honnête et tu es droit, tu accepteras. Si tu ne l'es pas, tu rejetteras. Tu es libre. Je ne force pas. Devons nous référer à ce qui est lié à l'accomplissement et non à ce qui sépare la Torah de Yeshua. Yeshua et la Torah, c'est Echad. C'est un. C'est ce qui est lié au travers de ce que nous avons vu du souverain sacrificateur à cette paracha de Kitessa et qui nous conduit dans la compréhension de la fête de Yom Kippour. Mais je veux revenir à la pensée des vêtements. Et au travers de ce que nous avons un petit peu vu, ce vêtement est aussi appelé par les prophètes le vêtement du salut. Autrement dit, traduit correctement de l'hébreu, il est le vêtement de la rédemption. Alors on va lire Ésaïe, le prophète, pour savoir que le salut, ça n'a pas été réservé à ceux du nouveau, mais bien à ceux de l'ancien. Voilà, c'est pas dans mes notes, hein. Mais il faut savoir ça. On croit que les Juifs sont toujours des aveugles. Hein, sans myope, ils ont besoin de lentilles, d'opérations laser. Ésaïe 61, et je vais voir si la traduction est bonne là. À partir du verset 9, on va lire. Leur race sera connue parmi les nations, enfin, ça c'est vrai, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Ce qui n'a pas toujours été le cas, et même aujourd'hui. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a, non pas vêtu, mais revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, de Yeshua en hébreu, avec un « hé » à la fin et non pas un « haïn ». Comme le fiancé sort d'un diadème et comme la fiancée se pare de ses joyaux. Un passage encore plus mystérieux, Job. Job 29. S'il y a des commentaires, je suis heureux de les entendre. Parce qu'on m'a dit souvent, il y en a qui font des commentaires sur ton commentaire. Alors permettez-moi de commenter vos commentaires. À partir du verset 29, Job 29, et à partir du verset 13. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Donc le malheureux a une bénédiction. C'est une bénédiction d'être malheureux. Je remplissais de joie le cœur de l'aveugle, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Ça, c'est les vêtements de la sacrificature. Comment es-tu habillé aujourd'hui dans ton âme? Dis-moi. Est-ce que tu as, comme Job, ou est-ce que tu as les vêtements de la haine, de la méchanceté, de la colère, de l'animosité, de la jalousie? Quels sont les vêtements que tu portes aujourd'hui à Shabbat, dans ce Shabbat? Autrement dit, quels sont les sentiments qui t'habitent vis-à-vis de l'autre dans ce Shabbat? Comment tu considères l'autre? Parce que si tu veux entrer dans la sacrificature, c'est d'abord savoir officier pour le pardon. Or, ce que l'on apprend aujourd'hui, c'est l'entretien par la médisance de la haine. C'est d'avoir des sentiments de méchanceté à l'égard de son prochain. C'est le mépriser, le critiquer, le rejeter, lui dire « tu n'as pas droit au pardon, à mon pardon, tu n'as pas droit à ma bienveillance ». Et là, on est à côté de la plaque. Mais de quelle maison ça fait partie, ça? Ce n'est pas la maison de la construction d'en haut. Ça, c'est certain. Il faut comprendre que ce salut veut dire Yeshua, et que Yeshua, littéralement, veut dire aussi la délivrance. Que le salut, c'est une délivrance, mais délivrée de quoi? Quand on revêt les vêtements, quand il nous a revêtus, non pas que nous, on a pris des vêtements qu'on a achetés, qu'on a choisis. Il nous a revêtus des vêtements du salut. Et autrement dit, Yeshua est notre revêtement et notre délivrance. Mais de quoi devons-nous être délivrés? Mais de la haine et de la mort. Mais vous allez comprendre un peu plus loin. De la haine, de la mort, du mal, des ténèbres. Le vêtement du salut, c'est la vie, la lumière et la justice. C'est ce que nous venons de lire. Ce qui est lié au vêtement du salut, ce qui est le revêtement de Yeshua, n'est que vie, lumière, justice. Alors, si on veut voir un peu plus brièvement, et c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le mystère, dans le mystère et la profondeur de l'analyse, je reste encore dans un niveau de surface. Mais là, on va aller dans quelque chose où ce sera moins agressif, mais quelque part qui va expliciter. Parce que nous allons faire parler les mots, la naissance des mots dans la Torah. Pourquoi Dieu a choisi tel mot à tel moment, à tel endroit? Pourquoi ce mot n'existait pas dans Bereshit? Et pourquoi il existe dans Exode? Alors, si on veut comprendre, il faut aller dans le commencement, dans le chapitre 3 de Bereshit, que tout le monde connaît certainement par cœur, où il est dit quelque chose, et là on va commencer à avoir le niveau de la compréhension dans l'analyse. Le fruit, dans Bereshit, Chava, elle va manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il s'agit bien d'une connaissance du bien et du mal. Elle mange un fruit qui donne une connaissance. On est bien d'accord? Ok. Et regardez, c'est alors que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent, c'est un verbe, qu'ils étaient nus. Ce qui est dit par le Nahash, le serpent, est quand même très différent. Et c'est là que l'analyse nous amène dans la compréhension profonde du texte. Parce qu'il est dit par le Nahash à Chava, vos yeux vont s'ouvrir. Vous entendez, hein? Vos yeux vont s'ouvrir, ou vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux. Et le contraste, qui est quand même là très sérieux, entre ce que le Nahash dit et la manière dont Dieu dit. Dieu dit que si tu manges de ce fruit, la mort, tu mourras. Mais en même temps, Il dit bien, si tu manges ce fruit de la connaissance. Et le Nahash dit, non, non, la connaissance va consister à ce que vous ayez un tel niveau, parce que Dieu vous bloque dans votre niveau mental. Il vous bloque dans le niveau intellectuel et spirituel. En fait, il veut que vous restiez inférieur et que vous n'atteigniez jamais la sphère supérieure. Et à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose qui ressort, c'est qu'il joue. Et en jouant, il dit, mais non, vous allez être au même niveau que lui. Vous serez comme des dieux, parce que vous aurez tout pouvoir décisionnel. Alors, il nous faut quand même comprendre que le contraste est lié au fait qu'ils ont connu vraiment et le véritable secret de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance de sa nudité. C'est que, on peut dire, non seulement ils ont connu vraiment qu'ils étaient nus, tous les deux, mais il faut comprendre le sens. C'est qu'avant, ils étaient aussi nus. Mais il n'y avait aucune honte. Ça n'a créé aucun problème. La première des connaissances, puisque le verbe connur est né, est arrivée au moment où ils constatent qu'ils ne sont plus revêtus, qu'il y a quelque chose qui les a quittés, ou qui les ont quittés, quelque chose qui fait qu'ils sont devenus vulnérables, qu'il y a des sentiments et un certain nombre de choses qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir à l'intérieur d'eux-mêmes, donc d'être habités par cela, et tout à coup, ils sont modifiés. Est-ce cela devenir un dieu ? Alors, ils connurent. Mais, en même temps, nous pouvons dire, pour aller plus loin, pour faire parler le texte dans l'analyse, et là, je ne vais pas dans les secrets, hein, c'est que non seulement ils étaient nus et sans honte dans le Gan Eden, parce qu'ils étaient revêtus du salut. Autrement dit, de la lumière, de la justice et de tout ce qu'on a évoqué. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que le mot vêtement, béchet en hébreu, parce qu'il y a deux termes, mais on va y venir un peu plus loin. C'est qu'il nous faut savoir qu'il y a des significations extrêmement profondes. Et que le terme béchet, qui est utilisé dans ce cadre-là, de ce revêtement dans le vêtement, il vient d'un mot bosch. Pas les bosch nazis. Hein. Mais bosch, littéralement, si je veux le retraduire en allant plus loin dans la recherche, il signifie la blessure de la honte. En fait, quand ils ont connu qu'ils étaient nus, ils ont reçu la blessure de la honte. Et quand ils ont reçu la blessure de la honte, ils ont vu ce qu'ils étaient devenus. Ils ont vu ce qu'ils étaient devenus par rapport à ce qu'ils auraient dû être. Car ils étaient toujours dans le Gan Eden. Ils ont vu ce qu'ils ont raté. Ils ont vu ce qu'ils ont perdu. Ils ont vu ce qui, tout à coup, modifie même la relation avec l'autre. Alors, la blessure de la honte, si je vais plus loin dans la réflexion analytique en psychologie, par exemple, elle nous donne ceci. C'est qu'il faut comprendre quel est le type de fonctionnement qui s'est inversé. De ce fonctionnement d'avant la chute, de ce fonctionnement après la chute. Ça veut dire, la blessure de la honte, elle signifie tout simplement qu'il fausse la psychologie et dévie le jugement de la conscience. C'est-à-dire que plus personne n'est à même d'avoir un regard juste sur les choses. Il fausse la psychologie, c'est-à-dire toutes les émotions sont faussées. Plus rien n'est bon et juste. Elle nous fait dévier dans le jugement. Nous jugeons parce que nous ressentons. Nous jugeons très facilement parce que nous voyons, mais pas par connaissance de l'autre. Nous jugeons souvent plus le superficiel que l'intime. que la connaissance de l'autre. Et ça, je le goûte depuis des, pas des millénaires, mais pas loin. Des millénaires d'heures. Les gens vous jugent comme ça et ils ne vous connaissent pas. Alors, il y a une réponse que je vais donner à quelqu'un qui m'a envoyé un email. Et on va voir. Parce que c'est facile de reprocher, mais elle fait pire que ce qu'elle me reproche. C'est incompréhensible. C'est l'être humain, il est fou. Alors, juste pour préciser, pour aller plus loin. Honte en hébreu, c'est bochette. Et donc, on est toujours dans la même origine. Bochette, qui a donné les bouches, le vêtement. Et Adama a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, mais entre guillemets, j'ai eu peur et honte. Parce que je suis nu. Il ne dit pas, parce que je ressens de la culpabilité, parce que je regrette ce que j'ai fait, parce que je ne savais pas ce que je faisais, parce que je me suis laissé avoir, parce que. Non, il dit, quand j'ai entendu ta voix, j'ai su que j'étais nu. Et quand j'ai su que j'ai été nu, j'ai eu honte et peur, et qui est le vrai mot, la racine. Et c'est à ce moment-là que nous devons comprendre. Alors, dans le mot « bochette », il veut dire tout simplement, et regardez les différents sens qu'on peut lui donner, il veut dire « honte », mais il conduit à confusion. Dans le mot « honte », tu trouves « confusion »,« ignominie »,« opprobre » et « idole ». Waouh ! Celui qui ne comprend pas, il passe à côté de quelque chose. Alors, j'ai voulu quand même rechercher à plusieurs endroits, dans plusieurs choses et dans plusieurs domaines, le sens, et on va lire dans le Tehillim, dans les psaumes 35, pour bien comprendre. C'est pas le même verset. À partir du verset 4. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. C'est exactement le sens de bochette. Et je vais plus loin maintenant. Psaume 44. Et à partir du verset 14, « Tu fais de nous un objet d'opprobre. » C'est le même mot, bochette. « Pour nos voisins de moquerie, de risée, pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Mais ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. » À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance.
Waouh !
Alors, si on peut comprendre encore un peu plus loin, Jérémie, Yirmayahou, Jérémie, le prophète, dans le chapitre 3. Nous amène dans quelque chose d'extraordinaire. On va lire à partir du verset 23. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Dans le mot idole, c'est bochette. idole, c'est Moshe. Nous pouvons dire qu'il y a encore plus dans Hoshéa, Osée. Un prophète merveilleux, le chapitre 9. On va le dire comme ça, mais ce n'est pas la bonne traduction. On va lire à partir du chapitre 9 et à partir du verset 9. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Alors littéralement, c'est quand même un petit peu différent. Ils ont été vers l'idole. Et là, ça a été traduit un petit peu littéralement, si je veux vraiment le traduire pour ne pas vous troublez trop, c'est l'idole de la honte. Ils ont été vers l'idole de la honte, littéralement, dans le passage. Ce n'est pas du tout, ça se traduit par le fait de la perte de l'amour et tout, mais infamie, tout ça, mais littéralement, ils ont été vers l'idole de la honte. Alors, il y a aussi deux termes qui nous servent et qui sont importants par rapport à nudité, c'est Avrom et Erva. Et ce sont deux termes qui désignent deux formes de nudité. Et c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est d'être nu, tout simplement, sur le plan physique, première. Mais la deuxième désigne la nudité qui n'est pas seulement physique, qui va au-delà du physique. Et c'est pourquoi il nous est dit qu'il est fondamental d'avoir des vêtements, d'être trouvé vêtu. Alors, derrière tous les mots, il y a l'autre qui va aussi se greffer, parce qu'il faut savoir qu'il y a les noms pour les vêtements sacerdotaux qui n'est pas le même mot que pour les vêtements du commun des mortels. C'est-à-dire que Beged, c'est un vêtement, mais lorsque nous avons employé l'autre mot tout à l'heure, les bouches, il désigne, et c'est ce que devait porter le souverain sacrificateur. Et ce ne sont pas le même terme, ce ne sont pas les mêmes fonctions, ce n'est pas le même sens, ce n'est pas la même signification. Alors, Beged, dans le vêtement, dans la manière dont l'homme est désormais habillé dans sa nudité, si on peut dire, tout simplement, il veut dire qu'il est dans la perfidie et dans la tromperie. C'est le sens, la signification étymologique profonde du mot Beged, du mot vêtement. La manière dont tu vis, dont tu t'habilles aujourd'hui, la manière dont tu te comportes avec les autres, c'est un vêtement. Hein. C'est un vêtement. Tu mets un vêtement. Et il veut dire perfidie et tromperie. Et c'est quelque chose qui nous amène quand même à découvrir que la racine même du mot Beged, quand on veut l'approfondir, c'est bagad, et qui veut dire assez. C'est assez significatif parce qu'il veut dire agir en trichant. Regardez le rapport des êtres humains. Qui vient dans l'amour vrai ? Devant quelqu'un. Qui ? Vous croyez qu'on va se bluffer ? Vous croyez que quand vous venez, que vous me dites que vous m'aimez, vous croyez que je vous crois ? Vous croyez vraiment que je vais vous croire ? Sans preuve ? Sans qu'il y ait eu un cheminement ? Quelque chose qui a établi la confiance dans votre amour ? Je ne vais pas croire simplement l'élan émotionnel, le premier niveau superficiel, qui n'est qu'un piège. Il veut dire agir en trichant, mais il veut dire aussi en trahissant. C'est-à-dire que très souvent, l'être humain est habillé de tromperie, de perfidie, parce que quand il va aller vers l'autre, il prend les vêtements où il sait pertinemment qu'il va tricher, trahir. tôt ou tard. Ça, c'est toute ma vie d'expérience. Mais ça va encore plus loin parce que dans Bagad, on trouve également la notion d'être infidèle. Les gens qui ont dit, nous avons compris, nous avons reçu, nous voulons faire partie, le Seigneur nous a montré, et vous savez toutes les paroles comme ça. Eh bien, combien sont restés fidèles ? Dieu merci, il y en a. Dieu merci, il y en a qui ont prouvé leur fidélité. Mais combien sont infidèles ? Être infidèle conduit au terme même de la compréhension du mot oppresseur. Alors, déjà, nous voyons que suivant le vêtement que nous avons. Mais si nous avons les vêtements du salut, est-ce que nous devons avoir cette attitude et ce comportement ? Est-ce que notre façon de fonctionner, notre façon d'avoir des rapports, notre façon d'être avec les gens doit être un béguède ou les bouches ? Alors, il est vrai que ça peut être complexe parce que c'est l'officialité du souverain sacrificateur qui est fondamental, et il avait une fonction principale, celui d'être un médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième, c'est qu'il devait tout faire et officier pour que la réconciliation et le pardon soient à l'intérieur du peuple. Or, aujourd'hui, et je sais, et ça m'use, ça me lasse, ça me casse, ça m'énerve, j'en ai ras-le-bol. Et c'est vrai que ça sort aujourd'hui de ces gens qui n'entendent jamais rien, qui sont toujours dans la haine, qui sont toujours dans la rancœur, dans le non-pardon, qui justifient parce qu'ils n'ont pas le vêtement du salut, parce qu'ils n'ont pas les bouches, mais béguèdent, parce qu'ils veulent rester dans quelque chose qui détruit et non quelque chose qui construit la relation, construire la relation dans la maison de Dieu, qui construit l'unité dans la prière, qui construit la relation fraternelle, qui accueille et qui prend soin de l'étranger et du malheureux, et qui s'occupe de l'âme qui est en sécheresse. Aujourd'hui, même si vous vous dites chrétien rempli de l'esprit, vous êtes des égoïstes, individualistes, sans juger, mais je suis dans le global, pas individuel. Il y a des gens, bien sûr, qui sont merveilleux. Mais globalement, on en est arrivé à « bénis-moi, oh, rebénis-moi, oh, je vais dans ce lieu pour être béni, oh, je vais aller écouter là-bas pour... parce que je vais être béni, oh, je vais être béni, qu'est-ce que tu vas être béni ? Tu vas faire une overdose, non ? Et après, tu fais quoi ? Tu es béni, ça dure combien de temps ? Et on est là, recevoir, et on veut toujours recevoir, et je voudrais, alors là, il y en a plein, là, des spécialistes, et ils viennent trois fois, et après, ils disent, ça fait un an que je viens, tu parles, et oh, oh. Et je voudrais être reformé par vous, tu parles. Mais il y a quelque chose où il nous faut comprendre, c'est que si nous voulons avoir le vrai vêtement du salut, la délivrance en Yeshua, elle va amener à ce qu'on officie tous dans la médiation, la réconciliation, le pardon. On fera tous des offices de Yom Kippour. Au quotidien, on effacera les fautes des uns des autres en amenant la lumière et la clarté sur ce qui dysfonctionne entre l'un et l'autre, même dans les couples. Même dans les couples. Ce qui conduit les couples à l'infidélité, c'est quoi ? Réfléchissez. Si tu as le revêtement du salut, l'amour de ta femme ne change pas, quel que soit le nombre d'années. Il se modifie dans le comportement relationnel, bien entendu. Ce n'est pas la passion des premiers jours des fiançailles ou... Hein ? On est dans une vitesse de croisière différente, mais solide. Et ensuite, il y a la fidélité. On n'ira pas vers quelqu'un d'autre. On n'aura pas le besoin d'aller vers un autre. On restera jusqu'au bout. Et lorsqu'on commence à comprendre, on réalise que ce terme, les bouches, qui est lié au vêtement ou au revêtement du sacrificateur, ils nous conduisent à des choses plus importantes. Alors, on va lire encore quelques textes. On pourrait prendre dans Exode 28, 1, mais vous le lirez à la maison, et Exode 40 et le verset 13. Mais je voudrais lire dans Ézéchiel. Ézéchiel, le prophète. Ézéchiel, dans le chapitre 9. Et vous allez voir que par rapport même à ce qu'on avait déjà étudié, tout se tient. À partir du verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux, et regardez pourquoi c'est important le mot, les bouches. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, pas un homme nu, et portant une écritoire à la ceinture, ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du kéroubim sur lequel elle était. Et elle se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait un tav, une lettre, un signe, une marque, sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. Lorsqu'aujourd'hui, on regarde, il n'y a plus beaucoup de pleurs et de gémissements pour la situation morale, pour l'abomination, même dans les assemblées, dans les relations entre les gens. On prie beaucoup pour s'améliorer, aller mieux. Mais il y a beaucoup de choses qui se commettent et qui constituent des obstacles. C'est important de comprendre que le terme qui est utilisé, c'est la bâche pour l'homme vêtu de lin. On va lire encore dans Ézéchiel au chapitre 10. À partir du verset 1, je regardais, voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des kérouvim. Là, nous parlons de Machiar, car seul Machiar est au-dessus des kérouvim. Satan est un kérouvim aux ailes déployées, il est inférieur. Alors arrêtez de me casser les pieds à lui donner un honneur, une gloire de supériorité. Please, stop! Arrêtez le délire. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues, sous les kérouvim, remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les kérouvim et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. Et les kérouvim étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. C'est toute la paracha de Kitessa. Ça, c'est la conclusion de la paracha de Kitessa. Et on se rend compte qu'il y a aussi des kérouvim. Alors, bien sûr que ça, avec le chapitre 1 d'Ézéchiel, on est basé et on est parti dans la pensée d'Israël sur ce qui va constituer les bases de ce que l'on appellera l'étude kabbalistique. Maasé Bereshit et Maasé Merkava, les chars, la dimension des chars, mais qui sont en rapport avec le monde angélique par rapport aux attributs divins, et que très peu de gens jugent sans connaître, sans savoir ce que c'est. Croient connaître, parce qu'ils ont entendu, oh, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et il y a un danger à donner crédit à ce genre de comportement. Alors, j'arrive à la fin. Il dit, j'ai entendu ta voix, Dama. On a vu un peu un certain nombre de choses et j'ai eu peur. Et je voudrais insister quand même que la raison de sa peur et de sa honte, c'est qu'il est nu. C'est tout. Hein. Autrement dit, comment a-t-il su qu'il était nu? Mais quel vêtement avait-il s'il était nu? Il est impossible de dire « j'étais habillé, maintenant je suis nu ». Là, on peut dire. Mais lui, il était dans la même condition avant qu'après. Sauf que là, il dit « j'ai honte parce que je suis nu ». Alors, si on veut aller chercher et avoir la compréhension, c'est qu'il s'est dévêtu en mangeant ce fruit. Il s'est dévêtu de la lumière, du Messie. Et il a perdu la dimension de la vie du Messie. Et chaque fois que l'on s'éloigne de Dieu, que l'on a les vêtements de la haine, de tout ce qu'on a énuméré, la lumière s'en va. La lumière de Machiav ne brille pas, tu peux le croire. Mais la réalité spirituelle, c'est ténèbres. Alors pour aller plus loin, encore dans cette réflexion, Dieu dit, et c'est là que la question se pose à toi et à moi, se pose à nous, en tant que communauté, et que maintenant il y a quelque chose qui doit se modifier, se clarifier, c'est que Dieu pose la question à Adama. Il ne dit pas, oh mais je sais pourquoi tu es nu, ah je sais ce que tu as fait. Je sais ce qui t'est arrivé. Regardez, il va encore plus loin et c'est encore plus subtil. Pourquoi on est obligé de rester un peu en surface? Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Et moi j'aimerais te dire, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'apprend que tu as les vêtements de délivrance? Comment sais-tu de quel vêtement tu es vêtu aujourd'hui? Comment le sais-tu? Comment tu sais? Parce que tu proclames, parce que tu fais Alléluia, parce que tu pries au nom de Jésus, parce que tout simplement tu fais deux, trois petites choses conformes à la tradition, parce que tu estimes être fidèle dans un lieu, mais ton mode de vie est infidèle. Et là, tu as les vêtements qui dévêtent. Lorsque tu fais la semaine et que tu bases sur le jour de la lumière, le jour du Shabbat qui est lumière, et que tu te revêts des habits de lumière, même si tu fais Abdallah Shabbat, tu ne quittes pas la lumière, mais tu la propulses pour tous les jours de la semaine. Et c'est autre chose que simplement faire certaines choses, d'où la lumière de Shabbat que nous allumons dans les bougies. Mais cette interrogation, il faut la voir encore plus en profondeur. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont la supériorité spirituelle. Dieu m'a parlé, j'ai prié, j'ai jeûné. Tu crois que c'est ce que la Bible enseigne? C'est la Bible qui enseigne ça? Tu crois ça? Tu crois ça? Montre-moi. Montre-moi. Montre-moi dans la Bible, dans tout le Tanakh, cette pratique. Eh bien, je dis non. Je dis non. Ce n'est pas la construction de la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu est une maison de miséricorde. Amen. Et j'en ai vraiment marre, assez, je vous le répète encore une fois, marre, assez de vos querelles bébêtes, d'avoir des gens qui malheureusement savent mais ne font pas, gardent volontairement leur haine, leur rancœur comme justificatif et viennent à Yom Kippour pleurnichant. Cette année, je vous le dis franchement, si dans les mois qui viennent ça ne se règle pas, moi à Kippour, je fous le camp. Je serai ailleurs, vous ferez qui pour entre vous. Vous vous débrouillerez, vous réglerez. Moi, je n'ai pas à régler. Parce que quand j'interviens, vous ne voulez pas entendre. Parce que quand on vous dit de vous réconcilier ou de vous pardonner, vous maintenez un comportement qui est indigne de Dieu, indigne du salut. Et donc, à ce moment-là, moi, je ne suis plus d'accord. Et même les haines non verbales, celles qui ne sont pas dites, celles qui sont dissimulées dans le cœur, celles qui sont cachées, mais qui sont présentes. Et pourquoi je dis cela? Parce que si nous voulons aller dans un niveau de sainteté réelle, d'une vraie relation d'amour, mais de vie avec Dieu, à un moment donné,
Nous voulons avoir l'unité dans la prière parce que lorsqu'on demande à Dieu, Dieu entend. Mais comment peut-on, dans des états contraires et contradictoires et dans la contradiction, dire on est dans le même lieu, on ne s'aime pas, mais on loue Dieu? Vous trouvez ça cohérent? Alors je suis un idéaliste, oui. Mais je suis surtout un homme du cœur de la sainteté de Dieu. Je suis un homme qui aime Dieu. Je veux vraiment, et je vis cette pratique en moi. Je ne suis pas parfait, loin de là. Je suis bourré, truffé de défauts. Je fais des erreurs, mais à n'en plus finir. Je commets des maladresses par les mots, les paroles, les comportements. Oui. Oui. Et je ne m'en cache pas. Mais heureusement, il y a Guy pour. En tout cas, pour moi, c'est bon. Mais derrière, il y a aussi un cœur qui souffre. Un cœur qui souffre de voir que ce que Dieu nous demande n'est pas si compliqué, mais qu'on a du mal à l'accepter. Alors, c'est vrai que qui t'a appris et quel vêtement tu auras après Pessah ? Est-ce que tu auras le vêtement encore qui a revêtu toutes les années de ton esclavage en Égypte ? Ou est-ce que tu auras le vêtement qui va te conduire justement jusqu'au mont Sinaï, où les 10 dvarim, les 10 paroles, les 10 commandements de l'Éternel s'intégreront dans ton cœur? Quand est-ce que tu vas les entendre, ces 10 paroles? Quand est-ce que tu vas entendre que là, maintenant, il ne s'agit pas simplement de parler en langue pour se substituer à la réalité? Parce qu'il y en a qui ont compris la substitution, mais qui n'ont pas la pratique, et qui sont loin de mettre en pratique. Et là, il faut dire, reprenons le gouvernement de l'intelligence et de la conscience. Une conscience lavée et purifiée, parce que nous voulons aller jusqu'à Shavuot, et de Shavuot aller à Rosh Hashanah, non en se plaignant, en ayant le dos courbé, la culpabilité, la lourdeur intérieure, mais dans la joie de célébrer une nouvelle année. Une année qui sera différente parce que une année où on sera préservé de toute maladie, une année où certains problèmes, difficultés seront coupés, arrêtés, anéantis à cause des malédictions du passé. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Tu peux dire à tonton, super onction, coupe mes liens. Mais si tu ne coupes pas la racine de ton mal, rien n'est coupé. Que tu le veuilles ou pas, rien n'est coupé. Alors, j'aimerais pratiquement conclure avec ces versets Hébreux 4. Enfin, ce n'est pas les seuls versets, mais Ivrim, Hébreux 4. Les vrais, je vous demande pardon si le style ne vous plaît pas, si c'est un peu différent, mais il faut être droit. J'ai dit Hébreux 4. Hein. Et qui est en rapport avec tout ce que je vous ai dit, à partir du verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrantes, jusqu'à partager âme et ruach et le souffle, l'air. Jointures et moelles, elle juge. Elle juge. Elle évalue. Elle fait peser durant toute l'année le poids des sentiments. Et à qui pour t'as rendez-vous avec ce poids? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée. Regardez comme ça se tient. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La dissimulation, c'est un art. Hébreux 26, Job, pardon. Job. Job 26. Il faut que je vois si ça correspond. Ouais. On va lire à partir du verset 4. À qui s'adressent tes paroles ? Et qui est-ce qui t'inspire ? Devant Dieu, les morts tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Donc, en-delà des morts, il y a encore des habitants. Ça, vous n'avez pas la révélation, hein, des habitants. Non ? Hein, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il n'y a rien qui dissimule, rien qui sépare. Je vais finir maintenant avec quelques versets parce que je ne peux pas approfondir. On était seulement à l'aube, à l'entrée de la paracha. Alors je vais conclure simplement avec ces versets. 2 Corinthiens 5. Et à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de sa Ruach HaKodesh. Apocalypse 3. Verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or pur ou de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et que tu aies un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Dernier passage, Apocalypse 16. Et le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Donc si le Seigneur vient ce soir, si tu meurs ce soir, quel vêtement ? Tu pars comment ? Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armegido. Vous savez que c'est le temps où on y arrive. Je ne vais pas aller plus loin. Nous pourrions... Il n'y a pas d'interdit à Shabbat. Mais je voudrais simplement, ou Robert ou Élie, tu viens, Pierre, avec la sensibilité du cœur, juste avoir un temps de conclusion, d'intérioriser un certain nombre de choses. le mettre à l'intérieur de son cœur. Non pas en pensant que ce sont des paroles dures, ce sont des paroles de bénédiction qui guérissent l'âme. C'est un bistouri. Mais le bistouri a une fonction qui amène d'abord la douleur, mais ensuite, elle va permettre qu'on puisse extraire le mal. Tu peux chercher toute ta vie des pansements, des effets placebo. Spirituellement comme humainement, chercher des solutions qui ne font que colmater, sans guérir, sans soigner. Aujourd'hui, devant toi, Éternel, je veux placer la Keïla dans sa responsabilité devant toi, dans une responsabilité de vérité, avec un effet de droiture dans la justice. Nous ne voulons pas simplement être une communauté où il n'y a que de l'apparence. Un bel enseignement, mais que de l'apparence derrière, de la religiosité. Je demande des hommes, un mignon ici, de droiture, de justice qui vont se revêtir, qui auront le fruit de ton esprit. 10 hommes, Seigneur. Donne-moi 10. Montre-les-moi. Car souvent, comme toi, je regarde et je dis, il n'y en a pas. Tous sont pervertis. Tous cherchent leur intérêt. 10, Seigneur, dans le cri de mon âme, de mon cœur, pour que cette Keïla change. Pour qu'il y ait un exemple de droiture et de vérité pour tous. Qu'il n'y ait pas de tabou. Que les domaines considérés comme impardonnables, les fonctionnements de ce niveau du monde, je ne les veux pas, Seigneur. C'est une mort, c'est sûr que c'est dur. Mais donne des hommes, des êtres qui ont ton cœur, qui ont ton cœur, Seigneur, qui n'ont que ton cœur, qui ont l'amour de ton nom, l'amour et la crainte de ton nom, l'amour de ta sainteté, sans l'esprit religieux. Alléluia. Afin que nous guérissions pour guérir, pour être un modèle qui guérit cette jeunesse qui meurt, qui se tue, qui se jette dans les drogues, les extasies, et qui laisse tout croyant presque indifférent. Où on s'occupe de soi. Ramène ton peuple Israël, que ta voix soit entendue par eux. Enlève l'égoïsme. Que les couples puissent fonctionner de manière digne de toi. Nous voulons une vraie vie dans toi, toi le Messie. Sinon tout est vain et inutile. Car dans le souvenir, dans quelques années, il ne restera rien. De tout ce que nous avons enseigné, il ne restera rien. Et il y aura des endroits où ta semence aura pris. Seigneur, que maintenant, à la lueur de ta face, nous puissions intérioriser, non dans la forme, mais dans le fond. Tu nous as parlé aussi. Aide-nous à intégrer ce qu'il faut. Car c'est seulement ta gloire, pas une renommée que nous cherchons, pas une réputation. C'est seulement par amour de ton nom, par amour de ta rédemption. Sois béni, Yeshua, ma chère. Amen. Shavuot Tov, que Dieu vous bénisse.